VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 19 avril 2016, à la une ce soir.
Nuit sanglante au Burundi, deux personnes tuées à Bujumbura. Par ailleurs, le représentant américain pour la région appelle un dialogue inclusif entre le pouvoir et le secteur démocratique.
Présidentielle au Tchad, 17 délégués de l'opposition ont claqué la porte de la CENI.
Toujours au Tchad, nous ferons le point sur la conférence de presse de l'opposant Salé Kebzabo.
Soudan du Sud, encore une fois le chef de la rébellion Riek Machar n'est pas revenu à Juba pour reprendre ses fonctions de vice-président.
Course à la Maison-Blanche, 9 millions d'électeurs, dont environ 2/3 de démocrates participent aujourd'hui aux primaires de New York, qui s'annoncent déterminantes avec l'investiture dans les deux partis.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. On commence au Mali.
Disparition de 3 collaborateurs de la Croix-Rouge au Mali. Donc, le comité international de la Croix-Rouge confirme avoir perdu contact depuis le 16 avril avec 3 de ses collaborateurs qui étaient en mission à Abeibara, à environ 140 km de Kidal. Ils seraient retenus par une communauté, comme l'explique Valérie Mboanana, porte-parole du CICR au Mali.
Lorsque les opérations des forces françaises sont déroulées, notamment dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16, il semblerait que le guide du CIC aurait été arrêté. Donc le samedi matin, nos équipes sont donc parties de leur point de couchage vers Kidal. À peine ils sont partis de Abeibara, qu'ils ont été abordés par quelqu'un qui était à moto. Et cette personne leur a demandé de le suivre, parce qu'il y a un des responsables de la communauté qui souhaitait leur parler. Donc, ils ont décidé de suivre ce monsieur, et c'est ainsi qu'on a donc perdu le contact avec eux. Ça, c'est les informations que nous avons pu avoir à la suite de la libération de l'un de nos collègues. D'après ce qu'il nous a dit également, ils sont détenus dans de bonnes conditions, et puis ils n'ont pas fait l'objet de mauvais traitements.
Valérie Mboanana, porte-parole du CICR au Mali, joint par Nicolas Pinault.
La France, préoccupée par la situation au Congo-Brazzaville, notamment dans la région du Poule, où l'armée est accusée de s'en prendre à des civils, Paris demande donc aux institutions internationales de faire la lumière sur ces développements.
L'Union européenne a officiellement lancé une mission de formation de l'armée centrafricaine. Elle prendra le relais de l'opération Sangaris avec les forces de l'ONU pour stabiliser la Centrafrique après 3 ans de conflit.
Les cours ont repris à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les étudiants ont suspendu leur grève pour ouvrir des négociations avec le gouvernement sur la libération de 150 élèves et étudiants arrêtés.
Nuit sanglante au Burundi, dans le quartier de Ngagara. 3 hommes armés ont fait irruption dans un bar vers 21h30. Ils ont lancé une grenade puis ouvert le feu d'après la police. Une jeune fille est morte et 3 personnes sont grièvement blessées. Par ailleurs, des policiers auraient ouvert le feu alors qu'ils tentaient d'arrêter un taxi-moto. Une jeune étudiante aurait été tuée et un de ses amis blessé.
Burundi toujours, l'envoyé spécial du président américain dans la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, a indiqué aujourd'hui que la balle est dans le camp du gouvernement pour réaliser les promesses concernant les droits de l'homme, la libération des prisonniers politiques et la venue des observateurs des droits humains des Nations Unies. Thomas Perriello, qui s'est rendu à Bujumbura et à l'intérieur du pays pour la 7e fois, a affirmé que le dialogue inclusif est le remède à la crise burundaise. On écoute Christophe Nziza.
Après avoir rencontré certains membres du gouvernement et des responsables de la société civile, l'envoyé spécial du président américain Thomas Perriello a reconnu que depuis qu'il est venu au Burundi, les autorités gouvernementales ont promis une amélioration au niveau des droits humains, mais que force est de constater que les tortures continuent. Perriello a affirmé que 595 cas de torture ont été documentés par les services onusiens, mais que personne n'a été inculpé jusqu'à ce jour. Même constat pour la libération des prisonniers politiques, il en est de même en ce qui concerne concerne les 200 observateurs des Nations Unies. S'étant rendu au Burundi pour la 7e fois, l'envoyé spécial du président américain estime que ce double langage est un frein au dialogue inclusif pour trouver une solution pérenne à la crise burundaise qui a déjà fait des centaines de personnes tuées. Perriello a indiqué que les États-Unis seront toujours à côté du gouvernement burundais pour trouver une solution consensuelle. Il se rend après Bujumbura à Dar es Salaam en Tanzanie pour discuter avec le nouveau facilitateur dans la crise inter-burundaise, l'ancien président Benjamin William Mkapa. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Zambie, les violences xénophobes ont continué pour la deuxième journée consécutive. Des centaines de personnes ont attaqué et pillé les magasins tenus par des étrangers dans plusieurs bidonvilles. Les réfugiés rwandais, estimés à 6400, tiennent des boutiques dans les quartiers pauvres. Ils sont accusés d'être à l'origine de la mort récente de 7 personnes dont les corps ont été retrouvés amputés. Un témoignage avec Jean Damasène, un réfugié rwandais, et de Makenis House, un bidonville de Lusaka.
La situation n'est pas bonne. Ça a commencé par les rumeurs, des acteurs étrangers ont participé dans la sécurité. Ce que les Rwandais sont ici, au grand nombre, ils ont des boutiques. Le peuple de Zambie a commencé de chasser. Ils ont profité de l'occasion pour voler les produits dans les boutiques des étrangers. Ça continue, même ici, vous pouvez attendre le bruit de la population protester en disant qu'il ne verrait pas des étrangers ici. Que la population ici a la mentalité de haïr des étrangers en disant qu'ils ont pris leur travail, je peux dire que c'est tous les Rwandais et les Burundi. Nous avons perdu beaucoup de produits, beaucoup de biens. Ils ont pris tous les produits qui se trouvaient dans les boutiques. Beaucoup de Rwandais sont maintenant au HPR. Les autres sont au Paris. Il y en a des autres qui sont restés dans les maisons pour attendre de voir plus la police et calmer la situation.
C'était un réfugié rwandais de Makenis South, un bidonville de Lusaka.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, un attentat suicide a fait 30 morts et des centaines de blessés aujourd'hui à Kaboul. C'est l'attaque la plus sanglante dans la capitale afghane depuis le début de l'année. On fait le point avec Nanit Talani.
L'attentat suicide au camion piégé visait un bâtiment gouvernemental le matin à l'heure de pointe. Les 30 personnes tuées et les 320 blessés par l'explosion sont pour la plupart des civils. Selon le chef de la police, Abdul Rahman Rahimi, un assaillant a garé un camion de chantier bourré d'explosifs sur le parking et l'a fait exploser. D'après Sédik Sédiki, porte-parole du ministère de l'Intérieur, un second assaillant a réussi à entrer dans le complexe, déchaînant une intense fusillade avec les forces de l'ordre qui l'ont finalement abattu. Les talibans, qui ont aussitôt revendiqué l'attaque, ont annoncé il y a une semaine le début de leur offensive de printemps, l'opération Omari, en mémoire du Mullah Omar, le défunt fondateur de leur mouvement. Ils affirment vouloir mener des attaques de grande envergure dans tout le pays, notamment contre les 13 000 soldats de l'OTAN et les forces de sécurité afghanes.
Présidentielle américaine, pour la première fois depuis plusieurs décennies, les primaires de New York revêtent une grande importance pour les candidats des deux partis. Chez les républicains, Donald Trump espère remporter une large victoire sur ses deux adversaires, tandis que chez les démocrates, Bernie Sanders entend créer la surprise face à Hillary Clinton. Nous avons sur place notre collègue Jacques Aristide.
Oui, Morgan, c'est donc le jour J pour les électeurs new-yorkais qui votent depuis ce matin, depuis 6 heures ce matin, et ce, jusqu'à 21h ce soir. Je me trouve devant un bureau de vote ici en plein cœur de Manhattan. Je dois dire, mouvement timide. Alors, quand je parle d'électeurs new-yorkais, c'est-à-dire ceux et celles qui se sont enregistrés parce que les primaires de l'État de New York sont fermées, entendez par là que les indépendants, s'ils voulaient prendre part à cette joute, devaient se faire enregistrer avant le 9 octobre, sous la bannière soit démocrate ou républicaine. Alors, du côté des démocrates, Hillary Clinton, ancienne sénatrice de New York, semble avoir une avance, une certaine avance dans les sondages face à son rival Bernie Sanders. ce sénateur du Vermont, né à Brooklyn, à New York, bien sûr. Au niveau des Républicains, c'est Donald Trump, un autre New-Yorkais qui est lui né dans le Queens, paraît mener la danse sur les deux autres prétendants du même parti, le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, et le sénateur du Texas, Ted Cruz. Une éventuelle victoire pour Hillary Clinton et pour Donald Trump les rapprocherait de manière significative de l'investiture, d'autant que New York est le deuxième État le plus riche en nombre de délégués après la Californie. Jacques Aristide, en direct de New York pour VOA Afrique.
L'Union européenne a rappelé ce mardi qu'elle ne reconnaissait pas l'occupation par Israël du plateau du Golan, en dépit des propos du Premier ministre Benjamin Netanyahou, selon lesquels la partie annexée du Golan syrien restera à jamais sous souveraineté israélienne, rappelant que la Ligue arabe et la Syrie ont condamné les propos du chef du gouvernement israélien.
Les principaux responsables de l'opposition syrienne ont commencé à quitter Genève après avoir suspendu hier leur participation aux négociations de paix sous l'égide de l'ONU, en ne laissant sur place qu'une équipe technique, a annoncé aujourd'hui le coordinateur de l'opposition.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique, c'est tout de suite avec Eric Manirakiza.
En RDC, le coût du panier de la ménagère a fortement grimpé. Même le prix du piment a augmenté, se plaignent les habitants de Kinshasa. Depuis février, le cours du franc congolais glisse par rapport au billet vert, dans une économie dollarisée à plus de 85%. Les variations de change perturbent vite les prix à la consommation. Par exemple, un pied de chou qui se vendait à 500 francs est passé à 1500 francs. Un kilo de carottes de 2000 francs se vend aujourd'hui à 4000. Toujours à Kinshasa, la recharge de 100 unités de crédit téléphonique a bondi de 20% avec le week-end, 1200 francs lundi contre 1000 vendredi. La Banque mondiale a annoncé le déblocage de 2,5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour investir dans l'éducation des jeunes filles. Ce fonds concerne les nouveaux projets principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où une grande proportion d'adolescentes n'est pas scolarisée. Les chiffres sont alarmants. Quelques 62 millions de jeunes filles dans le monde sont privées d'accès à l'éducation. La première dame des États-Unis, Michelle Obama, qui a appelé à investir massivement, a dit que les preuves sont formelles quand nous investissons dans l'éducation des filles et que nous accueillons les femmes dans la population active et ne sommes pas les seules à en bénéficier. Nous sommes tous gagnants, a affirmé Madame Obama. L'échange de produits contrefaits dans le monde représente près de 500 milliards de dollars par an, soit 2,5% de l'ensemble du commerce mondial. La Chine est de loin le premier pays producteur de produits de contrefaçon, 63,2% des produits saisis étant d'origine chinoise.
La Minute Éco, merci Eric.
Nous passons tout de suite à l'actualité sportive. On va parler de la Ligue africaine des champions, 8e de finale retour. Élimination du stade malien, le Zesco United de Zambie l'a encore emporté 2-1 à domicile. Après sa victoire 3-1 à l'aller à Bamako, les Maliens disent donc au revoir à la compétition à suivre. Ali Tripoli a perdu face à l'AZEC Mimosa 2-0. Signalons aussi la victoire du Zamalek de l'Égypte sur le Béjaïa de l'Algérie, même score 2-0. Et match nul 2-2 entre l'Entente sportive de Sétif, une équipe algérienne, et l'Almérique du Soudan. Le TP Mazembe a perdu face au Wacka Sablanka. Et puis, il y a aussi autre compétition demain, la Coupe de la Confédération, le stade gabésien qui a fait match nul face à Zanaco, une équipe à suivre. Parlons du Mondial 2018, Infantino salue les préparatifs de Moscou, mais appelle à ne pas se relâcher. Le président de la Fédération internationale de football a salué ce mardi les participants au Mondial 2018, tout en appelant les autorités russes à ne pas se reposer sur leurs lauriers à l'occasion de sa première visite en Russie depuis son élection. 12 stades situés dans 11 villes de Russie accueilleront le Mondial 2018, dont le match d'ouverture se déroulera le 14 juin au Loïniki Parmi ces deux stades, 6 nouveaux sont actuellement en construction et 4 en phase de rénovation. Seul le second stade de Moscou et celui de Kazan, à 800 km à l'est de la capitale russe, étant déjà prêts. Et dans la NBA, les Warriors mènent 2-0 après avoir remporté le match numéro 2 face à Houston, 115-106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriac et Chérubin Gabi Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour.
Première escale, le Tchad. Conférence de presse du chef de file de l'opposition démocratique, Saleh Kebzabo, candidat à l'élection présidentielle hier à N'Djamena. Saleh Kebzabo a revu en hausse le nombre des militaires arrêtés pour avoir voté pour l'opposition le 9 avril dernier. On fait le point avec notre correspondant André Kodmajingar.
Pour Saleh Kebzabo, le vote des forces de défense et de sécurité est totalement décrédibilisé, car en l'absence de l'isoloir, le scrutin était public avec obligation pour les électeurs de voter pour le candidat Déby, auquel cas ils risquent leur vie.
À ce jour, on signale plus de 60 personnes portées disparues. C'est à travers ce sinistre des comptes que j'ai été scandalisé d'apprendre l'existence d'une prison au sein même de notre présidence de la République. Ce que nos compatriotes taxés d'avoir voté l'opposition y subissent est insupportable, inacceptable, inhumain et révoltant.
Le gouvernement tchadien sort de son silence. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha Ali Alifi, apporte un démenti formel à cette information.
Par des accusations aussi grossières que fallacieuses, il cherche à jeter un discrédit sur les forces de défense et de sécurité, cible de leurs malveillantes déclarations. Le gouvernement s'insurge contre cette pratique irresponsable et déloyale qui n'honore pas les fonctions auxquelles ces candidats prétendent. En s'appuyant sur l'absence de certains militaires que le devoir a momentanément éloigné de leur famille, ces candidats amènent l'opinion sur des faits non avérés. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité ont pris les dispositions pour faire toute la lumière sur ces allégations qui participent d'une manœuvre savamment orchestrée visant à manipuler l'opinion dans l'attente des résultats du scrutin du 9 et 10 avril 2016.
Tout en exigeant une commission d'enquête indépendante sur le vote des militaires du 9 avril dernier, Saleh Kebzabo s'est dit confiant de la victoire de l'opposition.
À l'opposition, nous demeurons sereins. Notre victoire et partant celle du peuple est certaine. Aussi, les jours qui viennent ou les heures qui viennent seront déterminants pour notre histoire car Déby veut encore nous voler notre victoire. Sinon, quelle explication donner à la coupure prolongée des SMS sur les réseaux de téléphonie mobile? Que dire du déploiement des forces militaires à travers tout le territoire alors que rien ne fait état d'une quelconque menace à la paix et à la sécurité intérieure? Pourquoi refuser d'accréditer des journalistes véritablement indépendants?
Dans une déclaration commune, 11 des 12 candidats de l'opposition se sont convenus de soutenir le candidat le mieux placé au second tour contre le président sortant Idriss Déby Itno. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
République centrafricaine, une mission de l'Union européenne d'environ 200 hommes sera déployée en vue de la formation de l'armée nationale. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense à Luxembourg. Le ministre centrafricain de la Défense, Joseph Yakété, se félicite de cette mission qui vient à point nommé, dit-il, dans la mesure où l'opération française Sangaris prend fin en juillet. Joseph Yakété, joint par Félix Yepassis Zembro.
Mais c'est une très très bonne décision, hein, parce que l'Union européenne a toujours été notre partenaire privilégié. L'armée centrafricaine a besoin de cette formation. Comme vous le savez, l'armée centrafricaine a perdu tous ses repères. C'est une armée qui a été humiliée, une armée qui a été complètement déstructurée. aujourd'hui, cette armée se relève. La formation, l'un des éléments qui pourront faire donc de cette armée une armée de professionnels, une armée digne de ce nom.
Vous héritez du ministère de la Défense à l'heure où l'on parle de plus en plus de la restructuration et du réarmement des FACA. Quel est votre sentiment à cet effet?
Réhabiliter les FACA, c'est une exigence nationale. Et c'est aussi l'une des préoccupations majeures du chef suprême des armées, hein, le président de la République, M. Faustin Archange Touadéra, puisque un pays sans armée n'est pas un pays moderne. Alors, ce que je pense, moi, en tant que ministre de la Défense, c'est que cette restructuration doit se faire. Notre armée doit retrouver donc sa dignité et doit devenir une armée moderne, une armée de professionnels.
Qu'en est-il du programme de DDRR?
Nous sommes donc en train de réfléchir pour rendre ce programme opérationnel, hein, parce que le désarmement est une condition, hein, c'est vraiment une des conditions pour retrouver la paix. Et nous sommes conscients que ça ne va pas être une mince affaire, mais nous avons nos partenaires qui nous accompagnent, nos partenaires qui sont à notre chevet pour que ce désarmement soit effectif. Nous sommes à la recherche donc de financement parce que cela va coûter extrêmement cher. Mais nos partenaires sont là et nous les appelons donc à nous assister sur ce plan pour que le désarmement puisse être effectif et que, comme vous le savez, notre armée puisse retrouver donc cette modernité, cette quiétude, parce que tant que les armes circulent un peu partout dans le pays, nous sommes en situation d'insécurité permanente.
Certains groupes armés continuent d'écumer à l'heure actuelle certaines régions de l'est du pays. Quel est votre plan d'action pour pallier à cette situation?
Bon, comme vous le savez, c'est vrai, il y a des groupes armés qui sévissent encore dans l'arrière-pays. Nous en sommes parfaitement conscients. Il y a des négociations en cours avec les groupes armés. Donc nous passons d'abord par le dialogue, par la négociation, pour trouver un compromis, que nous puissions tous nous réunir pour rebâtir cette nation. Nous avons aussi à nos côtés nos partenaires qui ont aussi cette mission d'accompagnement et nous sommes en train donc de voir pour la signature d'un accord. Cette signature qui a été faite hein, déjà pour un accord DDR lors du forum de Bangui, donc on s'appuie là-dessus pour que ce problème soit résolu.
Le ministre centrafricain de la Défense, Joseph Yakété.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Au Sud-Soudan, la mise en application de l'accord de paix signé à Addis Abeba attend l'arrivée du chef rebelle Riek Machar pour intégrer le gouvernement de transition et occuper de nouveau la vice-présidence. Mais le chef rebelle a déjà reporté au moins 6 fois son retour à Djouba, ce qui met en lumière un manque de confiance entre les protagonistes. La question qui se pose, viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas? Éric Manirakiza a joint à Nairobi le chercheur Roland Marshall.
J'attendrai qu'il arrive pour vous dire qu'il est là. Mais ce qui est clair, c'est que effectivement, ça fait, c'est d'après mon calcul, la 6e fois que Riek Machar ne vient pas à la date annoncée et d'une certaine façon cela en dit beaucoup sur la confiance qui règne malgré l'accord signé et aussi sur les énormes difficultés et les retards dans la mise en œuvre de l'accord obtenu en août de l'an passé.
Vous parlez de la confiance qui règne, justement, qu'est-ce qui explique ce problème de manque de confiance entre les deux parties?
Écoutez, on est face à une situation qui est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que les clivages à l'intérieur du SPLM ou du SPLX qui est aujourd'hui au pouvoir sont connus depuis de très nombreuses années. L'absence de véritable réconciliation au-delà, disons, de la promotion de certains individus dans des postes importants. Elle a été soulignée par les organisations de droits de l'homme, même par certains analystes politiques et d'une certaine façon, rien n'a été fait. Aujourd'hui, on est dans une crise qui a été extrêmement violente. La communauté internationale, en faisant de multiples pressions, est arrivée à obtenir un accord au forceps. Mais il est clair que, si vous voulez, il faut faire preuve d'un optimisme professionnel pour penser que les choses sont sur la bonne voie et que, d'une certaine façon, on va maintenant se retrouver dans un Sud-Soudan en paix où on pourra d'abord regarder l'ensemble des dommages causés par cette crise et puis ensuite réparer, construire et reconstruire.
Ce n'est pas la première fois qu'il va occuper le poste de premier vice-président, il l'avait avant.
Le vrai débat, c'est le gouvernement. C'est un gouvernement d'union nationale sur lequel ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord en janvier. Et comme ils avaient épuisé toute la patience de la communauté internationale, il fallait faire quelque chose pour, d'une certaine façon, restaurer un minimum de confiance entre les protagonistes du conflit, donc Machar et Kiir.
Roland Marchal, joint à Nairobi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Malgré les risques encourus, les migrants traversent encore la Méditerranée en masse. Un an après le pire naufrage qui avait fait plus de 800 morts, quel est l'état des lieux des migrations des Africains vers l'Europe? Maëlys Segou a joint Florence Kim, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, à Genève, en Suisse.
Au niveau global, on a eu depuis le 1er janvier de cette année quasiment 180 000 arrivées sur les côtes européennes, donc aussi bien en Grèce qu'en Italie. En Italie, et c'est ce qui concerne la migration africaine notamment, il y a eu 25 000 arrivées environ depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Et de ces 25 000 personnes, nous avons plus de 3 400 qui sont des Nigérians, donc du Nigeria. Et la seconde nationalité est Gambie, avec plus de 2270 arrivées cette année.
Pourquoi est-ce que ces personnes quittent ces pays-là et qu'est-ce qu'ils veulent faire en Europe?
La situation migratoire en Europe comprend deux sortes de flux migratoires, pour avoir une vision assez globale de la chose. Il y a d'abord la migration économique, et puis il y a également la migration qui est due à des personnes finalement, des flux massifs. On l'a vu avec les Syriens, les Irakiens, les Afghans qui essaient de quitter leur pays en conflit. La migration économique a toujours existé. Il y a un taux assez régulier de ces migrants. Une grande partie, d'ailleurs, arrive en Italie. Pour le cas du Nigeria, on se trouve dans une situation un petit peu hybride avec un changement depuis quelques mois. C'est vrai qu'une grande partie quitte pour des raisons économiques, donc pour essayer de donner un meilleur futur aussi bien à leur propre personne qu'à leur famille ou un village entier. Mais également, on voit qu'il y a des arrivées de plus en plus fréquentes de personnes ayant essayé de fuir Boko Haram notamment.
Hier, de nouveaux migrants seraient morts en mer. Comment faire pour empêcher ces tragédies?
La Méditerranée est la zone la plus meurtrière en termes de migration dans le monde. On a eu plus de 3770 morts l'année dernière. Aujourd'hui, au 18 avril, nous avons plus de 730 morts déjà. Il y a eu 150 000 arrivées en Grèce avec 376 morts et 25 000 arrivées avec 356 morts. Donc on voit bien que la traversée jusqu'à l'Italie est quasiment aussi meurtrière que le petit bout de mer à traverser pour rejoindre la Grèce. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre des mesures préventives, d'essayer d'informer le migrant et non pas de le dissuader. Donc l'informer, prévenir sa migration et surtout l'informer des conditions dans lesquelles il va probablement migrer. On le sait très bien, il y a des zones très très à risque lors de leur traversée. Certaines zones telles que la Libye ou même le Niger sont des zones qui ont parfois de non-droits où on va rencontrer des passeurs, des trafiquants, des meurtriers. Les personnes risquent d'être torturées, tués, violés sur place, dépouillés. Depuis un an et demi, les passeurs n'ont plus de scrupules.
Florence Kim, porte-parole de l'OIM, jointe à Genève en Suisse.
Salut les amis, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Josèle Morissin a assuré la mise en onde. À la présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
On n'oubliera pas la technique Souleymane Tarawale. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.